Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir apporter la parole parce que nous avons la liberté dans notre pays de pouvoir le faire et nous avons tant de nos frères et sœurs qui sont privés. Et je vous assure que c'est vraiment terrible d'avoir soif de la parole de Dieu et de ne pas l'entendre. Alors merci Seigneur pour sa parole ce matin. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Walter le cafard. Je ne sais pas si vous la connaissez, et si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Walter le cafard habitait au sous-sol d'un grand gratte-ciel qui était également une très grande entreprise. Walter se languissait dans cet endroit sale et obscur et aspirait à autre chose. Entre autres, il voulait devenir quelqu'un d'important. Il postula pour un emploi dans l'entreprise et obtint une place pour coller les timbres sur les enveloppes au rez-de-chaussée du gratte-ciel. Walter se dit « J'aimerais gravir les échelons et devenir un employé modèle. » À force de travail et de persévérance, il devint l'employé modèle de l'entreprise. Walter se dit « J'aimerais être chef de service. » Il travailla dur et obtint une place comme chef de service. Puis il se dit « J'aimerais être directeur de l'entreprise. » À force de travail, de persévérance et toujours plein d'ambition, Walter gravit les échelons ainsi que les étages du gratte-ciel. Puis Walter se dit à nouveau « Ah, je voudrais être directeur général. » Par sa détermination et toujours la même ambition, Walter devint directeur général. Il occupa un vaste et confortable bureau au dernier étage du gratte-ciel. Un jour, Walter voulut savoir ce qu'il y avait au-dessus de son bureau. Il monta donc sur la terrasse et, accompagné d'un de ses employés, il découvrit avec admiration le soleil qui brillait dans toute sa force et l'immensité du ciel bleu-azur qui se prolongeait à l'horizon. Stupéfait devant tant de beauté et de génie, il demanda à son employé « Mais qui a fait cela ?» L'employé lui répondit « Ça, c'est Dieu. » Et Walter répliqua « Je voudrais être comme Dieu. » Aussitôt, une voix se fit entendre du ciel et dit « J'exauce ta demande, Walter. » Et Walter se retrouva au rez-de-chaussée à coller les timbres sur les enveloppes. Le titre de ce message, la gloire par l'humilité. Je traiterai deux points dans ce message, l'orgueil et ses conséquences, l'humilité, le chemin nécessaire pour le chrétien. Et je vais prendre un premier exemple tiré du livre de Daniel, chapitre 4, versets 29 à 37, si vous voulez suivre dans vos bibles. J'ai pas mis parce que c'est un peu long et que c'était trop pour le PowerPoint. Daniel chapitre 4 versets 29 à 37. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel est déporté à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar et il va être témoin de la situation tragique du roi. Nebuchadnezzar, enorgueilli de tout ce qu'il avait réalisé à Babylone, s'est attribué la gloire de ses réalisations. Il va s'enfler d'orgueil et attirer un jugement sur sa personne. C'est ainsi qu'il fut atteint d'une sorte de démence qui lui faisait se comporter comme un animal. Il avait été repris sur son attitude par Daniel, mais a passé outre ses conseils et ses avertissements, alors qu'à plusieurs reprises, il fut témoin de la toute-puissance du Dieu de Daniel. Il fut destitué de son trône, perdant la raison et étant incapable de s'occuper de son royaume. Dieu, dans sa miséricorde, lui permit de prendre conscience de son état et l'amena à la repentance et à l'adoration de l'Éternel. Son trône lui fut rendu et avec lui son statut et sa royauté. L'épreuve par laquelle Dieu le fit passer lui fut bénéfique. Dieu nous laisse le temps de nous rendre compte de nos erreurs, de nos péchés, de notre orgueil. Il attend que nous nous examinions et que nous nous repentions de ces péchés. Si nous résistons, il permet des difficultés ou des épreuves pour nous faire passer au creuset. Ne passons pas outre ces avertissements, ne faisons pas la sourde oreille lorsqu'il insiste. Capitulons le plus vite possible, nous nous en trouverons mieux. Toutes nos épreuves ou difficultés ne sont pas la conséquence du péché, mais il arrive parfois que ce soit le cas. D'où l'importance, comme l'a dit le roi David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En fait, David demande à Dieu de discerner ses actions et ses motivations. Il veut s'assurer d'être conforme à la volonté de Dieu. Et il sent le besoin que Dieu examine son cœur afin de savoir s'il est ou non dans l'erreur. Et c'est quelque chose que nous devrions faire régulièrement. Un deuxième exemple relaté dans le livre des Actes, Actes chapitre 12, versets 19 et 21 à 23. Il s'agit de l'épisode où Hérode fait arrêter Pierre et Jean, il les fait mettre en prison et un ange du Seigneur va les libérer. Verset 19. Hérode s'étant mis à sa recherche, à la recherche de Pierre, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Il s'agit de Hérode Agrippa Ier, le petit-fils de Hérode le Grand qui ordonna le massacre des enfants peu après la naissance de Jésus. C'est Luc, l'auteur du livre des Actes, qui nous relate cette histoire où Hérode, au comble de son orgueil, revêtu de ses habits royaux, il semblerait que ses habits étaient tissés avec des fils d'argent, laissa la foule l'acclamer et l'adorer comme Dieu. Il prononce un discours auquel la foule l'acclame, disant « C'est la voix de Dieu et non d'un homme ». Il reçut les louanges du peuple, se croyant digne d'une telle adoration. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Dieu le frappa, il fut rongé par les vers. Hérode est allé trop loin et Dieu intervient aussitôt. Il est allé à un point de non-retour et n'a pas eu le privilège de Nebuchadnezzar. Hérode était juif, il savait combien il était coupable de cet orgueil dont il s'enivrait, contrairement à Nebuchadnezzar qui, lui, était païen. Il aurait dû repousser les honneurs divins que le peuple lui rendait. Il n'en a rien fait. Il a accepté alors qu'il savait que c'était de l'idolâtrie. En tant que chrétiens, nous connaissons la parole et nous sommes d'autant plus responsables de notre attitude. Alors, soyons sur nos gardes quand Dieu nous reprend. Il est patient et bon, mais juste également et ne donnera pas sa gloire à un autre. Les sentiments d'orgueil commencent dans nos pensées et si nous ne demandons pas à Dieu de nous en délivrer, ils finiront par sortir aux yeux de tous. On ne peut pas se cacher continuellement. Alors, si vous aspirez à de grandes choses, vous faites bien. Seulement, que ce soit ce que Dieu ait prévu pour vous. Laissez Dieu s'occuper de ça. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. Notre vie appartient à Dieu et c'est tant mieux. Il nous élèvera au temps convenable si telle est sa volonté. Notre Père nous aime, il a fait de nous ses enfants. Quel plus grand et plus beau statut pouvons-nous avoir que celui de fils et fille du roi des rois? Nous avons là quelques exemples de ce que le péché produit comme conséquence dans notre vie. C'est là qu'intervient la sanctification qui est nécessaire pour nous changer. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève. « Vous serez comme Dieu », leur avait murmuré le serpent. Et les conséquences en furent désastreuses. Satan a essayé de mettre la zizanie dans la belle création que Dieu avait fait sortir du néant. Mais quoi qu'il ait pu tenter, Dieu avait déjà la solution pour répondre à ce désordre. Et Satan n'a pu faire que ce que Dieu lui a permis. Nous savons que sa demeure où il était au ciel avec Dieu, il fut précipité dans l'abîme lorsque son cœur s'éleva pour tenter de prendre la place de Dieu. À l'instar de Walter le cafard qui voulait toujours plus et s'est retrouvé au rez-de-chaussée, il fut relégué à un état de perdition sans retour pour lui et ceux des anges qui l'ont suivi dans son orgueil et sa rébellion. Si nous devons être élevés d'une manière ou d'une autre, laissons Dieu s'en occuper. Si Dieu désire que vous colliez des timbres sur les enveloppes, eh bien soit. À ses yeux, vous avez toujours la même valeur, celle qui l'a amené à se sacrifier pour vous. Il n'y a pas de service plus important que d'autres. Nous l'avons vu au spectacle de Noël. Seuls les dons sont différents et les chrétiens sont aimés du même amour et cela pour toujours. Et si Dieu veut vous élever, sachez rester dans l'humilité car tout est grâce de la part de Dieu. Vous avez remarqué comme il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent plutôt que de se réjouir d'une promotion d'un collègue, de la belle voiture de notre voisin, d'un métier qu'on aurait voulu exercer puis qu'on n'a pas pu faire et de voir quelqu'un d'autre l'exercer. Ce sont des choses qui arrivent. Lorsque nous sommes allés avec mon mari chercher notre fils à Ouagadougou, au Burkina Faso, nous avons rencontré Monsieur Dupré, fondateur du dispensaire, de la pouponnière et des écoles. Il m'avait dit « Je prie toujours que Dieu me garde de l'orgueil à cause de toutes les choses qu'il a accomplies par moi. » Cette parole est restée dans mon cœur, c'est d'ailleurs la seule que j'ai retenue parmi toutes les discussions que nous avons eues. Maintenant, on va prendre un texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, en version français courant. Voilà. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition d'un serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. Paul appelle ses lecteurs à se revêtir des mêmes sentiments d'humilité qui habitaient le cœur de Jésus. Il est Dieu, il possède la gloire, l'honneur et l'adoration lui revient. Il a avec le Père et le Saint-Esprit une union parfaite, sans rivalité. Dans son abaissement, il n'a pas essayé de s'accrocher à tout prix à son statut de Dieu tout-puissant. Son but et son désir étaient d'accomplir la volonté de son Père. On voit par sa venue, son ministère et sa mort combien il était soumis à son Père. Il est son égal et il le dira, « Moi et le Père, nous sommes un et un seul ». Pourtant, il acceptera de prendre la forme d'un bébé, exercera le métier de charpentier, se mêlera aux misérables de son époque, vivra une vie simple parmi ceux de sa génération. Alice, lors de la présidence qu'elle dirigea au culte de Noël, avait dit ceci. Après sa naissance surnaturelle, Jésus grandit dans un village sans histoire. Il devient charpentier, prédicateur pendant 3 ans, ne fondera aucune famille, il ne possède aucune maison, n'a jamais écrit de livre, n'a jamais eu de fonction officielle. Le courant d'opinion de l'époque se tourna contre lui. Ses amis l'abandonnèrent. Il fut l'objet d'un procès ridicule, puis crucifié entre 2 brigands. Et il se faisait appeler le Fils de l'homme. Cela n'a rien de reluisant et n'attire pas l'attention, ni ne nous montre un personnage glorieux lorsqu'on le considère dans tout ce qu'il a accepté de vivre en tant qu'humain parmi les humains. Lui, le Dieu créateur, Dieu tout-puissant et sauveur du monde. Réfléchissez à ces 3 statuts. Créateur, Dieu tout-puissant, sauveur du monde. S'il y a quelqu'un qui aurait pu se vanter d'être au-dessus de tout, c'est bien lui. Et pourtant, Ésaïe nous le dépeint comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. À tout moment, il pouvait se montrer tel qu'il était, le Dieu suprême. Mais il s'est tu. Il n'a pas ouvert la bouche. Devant l'injustice, nous avons tendance à protester, à nous défendre, à vouloir obtenir justice à tout prix. Ce n'est pas ce qu'a fait Jésus. Nous sommes si prompts à vouloir paraître, à retenir l'attention, à rechercher l'estime des autres, si peur de nous retrouver à coller des timbres sur les enveloppes plutôt que d'occuper un poste de directeur général au dernier étage d'un gratte-ciel. Quelle différence cela fait-il ? Une différence de salaire, sûrement, mais à part cela. Aux yeux de Dieu, croyez-vous que ça lui importe que vous soyez médecin, avocat ou caissière dans un magasin ? Un nouveau-né ne possède rien lorsqu'il vient au monde. Il n'a pas pu prouver sa valeur, ses capacités, ses aptitudes. Cependant, il a la même valeur que le roi d'Angleterre ou le président de la République, en tout cas aux yeux de notre Père. Soyons heureux de ce que nous sommes, car avant toute chose, nous sommes enfants de Dieu. Que peut-on désirer de plus que le statut de fils et fille du roi des rois, des seigneurs, des seigneurs ? Oswald Chambers disait « Pour atteindre les sommets, nous devons apprendre à travailler dans la pénombre. » Hier, quand nous avons eu notre marche de l'unité, et la marche pour Jésus par la même occasion, j'ai pu discuter avec une personne qui avait fait du théâtre dans sa vie. C'était son métier. Il y a quelques années en arrière, elle a perdu son conjoint et elle est tombée dans la dépression. Elle s'est accrochée malgré tout à Dieu. Et elle avait reçu une parole de la part de Dieu qui disait « Tu as été beaucoup sur la scène et moi dans les coulisses. » Et maintenant, c'est toi qui seras dans les coulisses et moi sur la scène. Et elle dit, depuis qu'il est sur la scène, je suis ébahie de le voir regarder faire. C'est formidable. Il faut savoir rester à notre place, là où Dieu nous met. Les projecteurs doivent être dirigés sur Jésus, non pas sur nous. Apprenons à travailler dans la pénombre, comme le dit Oswald Chambers. Cette humilité qui caractérise Jésus, Paul nous demande de la rechercher suivant le modèle de Christ. Il nous appelle à considérer notre prochain comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est difficile, n'est-ce pas? Seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre en chacun de nous. Mais pour cela, nous devons le désirer. Être roi d'Angleterre, pour reprendre l'exemple cité plus haut, et considérer le portier comme étant au-dessus de soi-même, il y a du chemin à faire. Pourtant, c'est en étant revêtu de ce sentiment d'humilité que nous plairons à notre Père céleste. Voir Dieu bénir notre prochain, le voir l'élever dans l'Église ou dans la vie, ça oblige à examiner notre cœur. Avant d'être roi, David gardait les moutons et il ne s'en plaignait pas. Il se contentait de faire son travail, convaincu que Dieu était avec lui et qu'il était un fils d'Israël. Avez-vous remarqué qu'il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir de la promotion accordée à notre collègue ou celle que Dieu accorde dans l'Église à l'un de ses enfants? En laissant de tels sentiments prendre place dans notre cœur, nous ne marchons plus dans le plan que Dieu a préparé pour nous. Et cela retarde la bénédiction de Dieu qui, avant de nous élever, veut nous abaisser. Alors pour conclure, j'ai parmi mes amis une personne qui avait des projets plein la tête et qui a reçu dans un temps de prière qu'elle devait avant tout s'occuper de mes projets à moi, de me mettre en valeur. Elle aurait pu passer outre la demande que Dieu avait mise sur son cœur, mais elle a obéi. Elle a su laisser de côté ses projets, ses rêves, pour me mettre moi en avant. Elle a renoncé à ses désirs pour accomplir les miens. Je n'ai appris cela que longtemps après que Dieu lui ait demandé. Mais j'ai été profondément touchée de son attitude, de son humilité et de son obéissance. Lorsque nous arrivons à faire cela, à faire passer les autres avant nous, à les valoriser, à leur donner leur chance, à se réjouir avec eux de ce qu'ils ont obtenu une promotion, un grade ou qu'une porte s'est ouverte devant eux, alors nous ressemblons à notre Père et son cœur est dans la joie. Et je citerai ce verset de Jésus dans Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà le Dieu que nous avons, le Dieu Tout-Puissant, qui est roi et serviteur. On ne trouverait ça nulle part dans le monde. Et moi, je suis admirative et l'humilité de Jésus m'a souvent bouleversée. C'est ce qui m'a amenée à faire ce message. Je vais prier et après je demanderai à Lydiane et à Juliette de venir nous conduire dans un champ pour nous permettre de méditer sur ce que nous avons entendu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voyons au travers de ta parole la personne adorable et merveilleuse que tu es. Seigneur, je suis admirative, je suis sans voix devant cette humilité qui te caractérise. Nous avons tant à apprendre de toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes pas, à nous revêtir de cette humilité, Seigneur. Ô Seigneur, nous devons te suivre, tu es notre exemple, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'y arriver, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Yeah. Tu es